Je disais qu'aujourd'hui nous assistons aux noces du langage et du monde, comme le dit Jean-Jacques Sély, pour la publication des trois tomes des œuvres complètes de Marc Alain. Certainement, de toute façon, une façon de revocabuler le monde selon les mots de Liberty, qui trouve là un de ses flamboyants héritiers. Car la poésie de Marc Alain est de la vraie poésie, plutôt que des platitudes prosaïques qui se veulent poétiques et qu'on nous sert trop souvent aujourd'hui. Poésie, c'est-à-dire un verbe riche de son vocabulaire sur lequel on s'arrête, un rythme qui met en valeur le sens et les images qui fulgurent. Marc Alain est un enfant du langage. Je cite, « Comme le lait sur le feu, je débordais d'images. Le verbe, mon pays natal. » Dans les forêts de Manial de la mémoire. Ces trois volumes permettent de retracer, avec les trois poètes convoqués, Jean-Jacques Sély, Georges-Emmanuel Clancier et Pierre Brunel, le parcours d'une vie en poésie. D'abord le rêve et l'image, puis l'éternité des matins, pour finir par l'accession au mystère de la vie par la voie initiatique. C'est notre ami Gwen Garnier-Duguy qui va présenter cette œuvre. Gwen est né en Bretagne, il a participé à un colloque sur Patrice de la Tour du Pin au Collège de France, et parlant de la politique de l'absence au cœur de la quête de joie, autour de la quête de joie. Il a fondé en 2012 avec Mathieu Baumier le magazine en ligne que vous connaissez, j'imagine, Recours au poème, exclusivement consacré à la poésie. Fasciné par la peinture de Roberto Mangou, il a publié en 2006 un roman sur son œuvre, intitulé « Nox ». Il a obtenu le prix international de poésie Van Gogh en 2002 pour « Enterre la parole » aux éditions Tour le Bourg. Il a signé la préface de « La pierre amour » de Xavier Borde dans la collection Poésie Gallimard. Je lui laisse maintenant la parole.
Bonjour à tous, merci de votre présence, merci au Cercle Aliénor de m'accueillir pour parler de Marc Alain et son œuvre. Merci à Bernard Fournier, à Marc et à Noël. Comme j'ai beaucoup de choses à dire, je commence sans plus attendre. Alors pour introduire à la portée de l'œuvre poétique de Marc Alain, portée opérative sur le plan du langage et donc de la conscience, ça signifie que nous ne pouvons plus voir le monde après son dire comme nous le voyons avant qu'il prenne la parole, il nous est nécessaire de dresser l'état des lieux littéraires, intellectuels et artistiques dans lequel Marc Alain surgit par sa naissance. Marc Alain est né à Reims en 1937, ce qui signifie que son enfance fut marquée par le climat oppressant de l'occupation, de la mort, des combats, bref, de la peur et du malheur que subissaient ses parents et l'ensemble du monde adulte qui entourait les enfants. Ces raisons pourraient expliquer la fréquentation de préventorium par Marc Alain lorsqu'il était petit. Le fait de naître à Reims, cela prédispose sans doute à une certaine imprégnation de l'histoire et de son importance, tant cette ville, même lorsqu'on naît en 1937, respire dans ses couches souterraines, dans son sol, dans ses pierres, l'éminence et la gravité de ce qui lie un peuple au destin. 1937, c'est le plein tapage surréaliste qui domine tout. Le cœur du surréalisme s'étend de 1920 à 1950. Paul Éluard publie une conférence cette année-là. Prononcée l'année précédente à Londres et intitulée « L'évidence poétique » dans laquelle il affirme « L'homme a besoin d'avoir constamment conscience de sa suprématie sur la nature » pour s'en protéger, pour la vaincre. Le premier manifeste du surréalisme a été publié en 1924 par André Breton, et de ce mouvement, nous pouvons retenir deux choses emblématiques. D'abord, cette affirmation de Breton, l'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule, ce qui nous renseigne.
Excusez-moi, mais la clim est tellement forte que je ne peux pas rester là.
Sur ce qui animait inconsciemment les tenants de ce mouvement, à savoir le meurtre arbitraire. Puis cette conception de l'image considérée comme stupéfiant, les surréalistes revendiquant le stupéfiant image, attachant l'image à la notion de scandale, de sidération et de drogue. Marc Alain opposera à cette conception, dont il est évidemment héritier, la notion de sésame, de mot-clé. Ce qui, nous le verrons, opère une transformation radicale à notre perception de l'identité du verbe. Car Marc Alain ne veut descendre personne avec son revolver, au contraire, il remonte à la source du langage pour y contempler son visage, ce qui lui fera parler dans le scribe errant de, je cite, « mots saumon remontant l'onde ». Le paysage intellectuel est quant à lui dominé par l'existentialisme et précisément l'existentialisme athée de Sartre, qui affirme que l'existence précède l'essence. Ce courant philosophique bat son plein entre 1945 et 1960 avec une pensée qui renverse la conception d'alors, considérant que ce sont nos actes qui définissent et forment notre essence, avant quoi nous n'avons pas d'essence. Rappelons en passant cette formule emblématique que l'on prend souvent pour qualifier l'existentialisme sartrien. Elle est de sa plume lorsqu'il fait dire à son personnage Garcin dans Huit Clos « L'enfer, c'est les autres ». Notons au passage que le deuxième recueil de Marc Alain s'intitulera « Le temps des autres ». Enfin, 1937, dans le milieu artistique, c'est l'année où Picasso compose les esquisses de Guernica, tableau le plus célèbre du XXe siècle, dans un style cubiste, quasi omniprésent depuis 1907. Que revendique le cubisme? Le remplacement de la courbe par la droite, le carré, le cube, et la lutte contre la nature jugée inaccomplie, le devoir de l'artiste étant de sublimer dans une volonté de modernité affirmé comme indépassable modèle. Le progrès, la nouveauté, la matière comme outil d'affranchissement de notre condition humaine. Par sa naissance en 1937 jusqu'à sa prise de parole officielle en 1956, par la publication de deux recueils décisifs, Liberté de voir et Le temps des autres, qui obtiendra le prix Max Jacob, nous comprenons que son surgissement se produit dans une période de remise en cause totale de l'ordre ancien avec tout ce qu'il contient. Marc Alain est-il au fait lorsqu'il publie en 1956 son premier recueil intitulé « Liberté de voir » de ce climat, voire de ce théâtre d'opération, tant une guerre des idées, des images, de la création est menée contre le modèle anthropologique en cours. Le père de Marc Alain tenait une librairie ancienne et moderne. Le jeune Marx est passionné pour les livres, ayant eu un goût particulier pour les civilisations anciennes. À 18 ans, le jeune poète, grâce à les librairies paternelles, est ainsi déjà fort érudit, et lorsqu'il commence à composer des vers, c'est fort de la connaissance de ce qui l'a précédé. Aussi, héritier de la poésie universelle, il a pu mesurer ce qui l'animait en propre et qui était en rupture avec les revendications littéraires de son époque. Dès le départ, lorsqu'il prend la parole officiellement, il sait sans doute fort bien ce qui caractérise sa voix, son ambition et son projet. Un champ de vie issu d'un regard perçant, le regard de sa conscience aigu. Et ses pairs d'alors ne s'y sont pas trompés, reconnaissant la singularité de sa création, au point que Georges-Emmanuel Clancier parlera de, je cite, «
on enlève les glaçons.
Son surgissement comme d'une joie et d'une lumière, soulignant que la vie reprend son sens printanier quand de nouveau un poète adolescent invente un langage à la résonance juste pour découvrir et nous faire découvrir avec lui le monde. Écoutons Marc Alain dans un poème que cette introduction aura, j'espère, aidé à entendre dans la richesse discrète de sa démarche. Ce poème s'intitule « D'une voix d'aube ».
La voix est venue m'éveiller, fraîche et nue, mouillée de rosée, ayant longtemps erré à même l'escabieuse, le fenouil, l'absinthe étoilée. Regard filant au ciel ainsi que vocalise, œil flottant sur la vibration de la clarté, je rends sa rondeur à la terre et je remets en liberté les vocables, mots saumon remontant l'onde, mots lézard, mi-nuit, mi-soleil, mots muscat, oracle d'étreille. Enfin, usant d'un silence plein d'ailes, d'œillets, de lavande et de thym, je fais à l'aimer encore en sommeil, dédicace de ce matin.
Je rends sa rondeur à la terre. Entendons l'allitération en R qui évoque le roulement revenu. Ce roulement ayant été confisqué par quelques cubes empêchant tout mouvement. Quant au vocable, par quoi avait-il été emprisonné ? Découvrons ensemble cette voix inouïe, inouïe dans le sens de jamais entendu jusqu'alors, et savourons ce chant porteur, ce chant procréateur, ce chant annonciateur d'un autre état de conscience du genre humain. La première chose que j'aimerais évoquer et qui parcourt toute l'œuvre de Marc Alain, c'est la dimension de la nature. Dès son premier recueil, publié en 1956, nous l'avons dit en introduction, le regard que porte Marc Alain sur la nature revêt une dimension capitale en vertu de cette singularité de parole qui le différencie des artistes modernes. Ces artistes perpétuent une philosophie héritée du darwinisme qui considère que l'homme doit sublimer la nature car elle est imparfaite, ce qui implique la notion de combat contre l'entité nature dont la nature humaine doit se dégager. Cette donnée est fondamentale car elle engage la responsabilité de l'être humain vis-à-vis de son environnement et va produire la religion de la modernité, basée sur les avancées sans limite du progrès technique. La conséquence politique sera de trouver, face aux problèmes posés par les contradictions mortifères de la modernité, des solutions technocratiques, selon cette foi aveugle, dans un progrès vu comme systématiquement salvateur et considérant la nature comme un supermarché aux ressources illimitées. Dès liberté de voir, les occurrences liées au blé, à la vie sortant de terre, comme nourriture, sont remarquables. Je cite « On dit que c'est la nuit, j'écoute germer l'ombre. » Vers en écho desquels répondront ceux du poème suivant. Les mots hypnotisés parlent en leur sommeil. J'écoute sous le sol la danse des rochers qu'un jour nous tutoierons quand ils auront germé. L'ombre germe, les rochers germent. Ces images, effectivement, sont de l'ordre du nouveau, car la nature, dès le départ, dans la poétique alinienne, ne s'apparente pas à l'églogue ou à la description de paysage. Non, elle fait référence au grand paysage intérieur qui doit être renouvelé de fond en comble pour imbiber l'homme d'une autre vision, d'un autre rapport au monde, puisque, je cite, « Le ciel sur moi s'est écroulé, sans m'accorder le moindre signe, et pèse tant à mon front que ma tête va se détacher de mon cou et rouler dans la rue où l'herbe n'a pas le droit de croître. » Si le minéral peut germer, image de la pierre philosophale, si l'ombre peut s'ouvrir à la lumière, c'est alors tout le rapport à la vie via l'interface du langage qui redéfinit le genre humain et le fait croître, contrairement à l'herbe qui, dans les villes, en a l'interdiction. Une redéfinition qui s'inscrit dans l'ordre du progrès, mais du progrès véritable, c'est-à-dire de l'accroissement de la conscience humaine. Le recueil se termine sur une image végétale pouvant avoir, sur la vie intérieure du lecteur, des effets magiques. Aujourd'hui et demain, je laisse sur les sables s'évanouir mes pas, pour que dans 10 000 ans renaisse ce même sommeil de mousse et de champignons bleus dont ton souvenir est l'otage. Nous voyons ici, par l'énonciation, un tissage souple entre le poète et le poème qui ne font plus qu'un. Et s'il s'agit alors du poème, avec un P majuscule, sans âge, qui parle à travers la vie du scribe, dont les pas s'effacent sur le sable du temps, c'est pour que la conscience du poème, agisse et s'immisce à travers le potentiel du rêve comme sommeil de mousse, c'est-à-dire un inconscient chargé de la promesse des forêts pour sa propre libération. Car la mousse engendre la fougère et la fougère la forêt. Pour preuve, le poème « Les montagnes toujours se rencontrent » où le scribe murmure « Je t'ai rejointe au-delà de la peur, dans cette forêt qui nous appartient, car je l'ai inventée pour toi. » Nous allons retrouver cette forêt 67 ans plus tard, ainsi qu'une forêt de longue attente, mais nommée par Marc Alain sur le versant de l'âge, forêt domaniale de la mémoire. Privé de la vue, il compose son poème dans le silence de son esprit, puis le dicte à son épouse, Noah Salamé. Ayant alors recours à la mémoire et tout le substrat de langage qu'elle contient en tant que présence illuminatrice. Dans le premier poème de ce tout dernier ensemble publié en 2023, nous pouvons lire Faites silence, dormeur à bout d'envol, pour ne pas troubler la majesté vulnérable du règne végétal. La cohérence de la poétique alinienne sur la durée du chant impose une attention de premier ordre. Cette attention est discrètement demandée par le titre du tout premier recueil, Liberté de voir. Car cette liberté relève d'une capacité de vision autre et s'oppose à une société rendue aveugle à toute autre perception que sa foi en ses propres illusions. La voix de Marc Alain, en son dernier poème, tremble toujours pour la splendeur du règne végétal, si fragile qu'il en murmure des vers d'amour quand à 18 ans, il fredonnait « J'écris avec la langue maternelle des herbes, le dialecte des nuages, le patois des oiseaux. Je dis le monde avec le monde pour en crier, sans souci des lettres qui flambent. J'écris bleu, c'est le ciel, rouge, tel le sang, limpide comme l'eau qui coule, la pulpe de mes mots à la fraîcheur du fruit. » Chaque élément de la nature est une écriture à part entière parce que tout est langage. Cette conscience posée dès le début de l'œuvre fait entendre que rien n'est plus important, plus fondamental, plus essentiel que la poésie en tant que réel absolu, pour reprendre les termes d'Hölderlin, que nous retrouvons chez Marc Alain ainsi formulé. L'absolu germe dans les jardins de l'encre. Tout est langage, l'homme est langage et le monde, au-delà de son apparence extérieure, est percé à jour en tant qu'encrier. Aussi, l'essence de la poésie étant le faire, comme l'indique l'étymologie de la racine grecque poiein, il va s'agir, contrairement à la modernité, qui est l'histoire de la projection des peurs de l'être humain sur l'extérieur, donc sur autrui et sur le monde, de composer un chant intérieur, autrement dit de faire un travail sur soi, pour intégrer les lignes de force en présence dans notre psyché, acte de conjuration d'une modernité inconsciente ou infantile, à tout le moins régressive. La ville, mot symbolique du lieu incarnant la civilisation, devient pour le poète un endroit répulsif car par nature anti-poétique. Je cite dans Liberté de voix : plus rien à faire dans les villes où l'homme combat l'homme pour une idée surgit soudain des profondeurs. Alain entre donc en poésie par une attitude qui marque un changement de langage et donc de vision, indiquant une possibilité différente de réalisation pour le genre humain. Que nous dit-il d'autre quand il évoque les herbes en tant que langue maternelle ? Le symbole de l'herbe ne signifie-t-il pas la santé de la terre, sa vitalité même, et puisqu'elle est maternelle, ceci n'implique-t-il pas que nous en sommes issus en tant qu'êtres pensants et parlants ? Pas de lutte avec la nature, pas de rivalité, mais la conscience d'être de la même respiration. La multiplication dans le poème de Marc Alain des images de la nature comme étant une écriture, voire des écritures, nous dit quelque chose d'essentiel. Exemple. Ainsi, la ville ensevelie sous les siècles des siècles ne cesse d'adresser au présent des messages sous forme de fourmis, lézards, escargots mauves, inscrivant derrière eux le texte indéchiffrable dont les jambages proches de la calligraphie minutieuse de l'araignée se déploient sur l'herbe grisée de rosée. Et dans les profondeurs de ma page alluviale, je déchiffre les évangiles apocryphes du limon. La mer est une écriture, la bave des escargots est une parole, le limon est une bonne nouvelle dont on nie le sens. Toute l'œuvre de Marc Alain recèle des trésors de cette échelle dont nous pouvons interpréter la dimension séminale car elle révèle une beauté sommeillante commune à l'inconscient collectif. Aussi, utiliser la nature en la pillant de ses ressources nous prive d'écritures faites pour être lues et chantées par nous autres humains qui avons décrété que la nature nous appartenait au titre que nous étions les seuls à être doués de paroles. Alain, poème après poème, nous prouve l'exact contraire, que tout est mot, que tout est vocable, que tout est phrase, que tout parle, quand bien même nous n'en comprenons pas le sens, ni n'en mesurons la dimension vitale. Mais surtout qu'en demeurant sourd à ces poèmes écrits par la nature, à ces phrases dites par les éléments, à ces chants murmurés par les fleuves, c'est notre propre visage et la portée de notre propre destin que nous abandonnons à l'inouï. Je cite « La parole me fut donnée afin de retenir la terre ferme sous les pas d'une race enfermée en sa nuit. Pour elle, je pétris tout au fond de moi-même le pain du jour, blonde brassée de rêve. » Retenir la terre ferme, dit le poème, on ne peut pas être plus clair quant à la fonction de la parole accordée à l'être humain qui se distingue des autres vivants justement par cette parole même. La terre ferme, c'est donc ce qui s'en va, ce qu'on laisse partir, ce qu'on délite négligemment au péril de nos vies, nous qui sommes du langage et lui appartenons. Le deuxième thème que je souhaiterais traiter est celui de la nuit et du bain nocturne qui traverse l'œuvre de Marc Allain. La présence de la nuit imbibe la création de Marc. Plusieurs de ses livres vont en faire mention directement sous l'image du nocturne. Nuit majeure, publié en 68. Le miel de l'abîme, en 1999. Tangle obscure, mémorial de l'encre, en 2019. Mais aussi la nuit du labyrinthe, qui est la deuxième partie de Nuit majeure. Ce chant du grain, du germe, du déploiement de la nature n'est pas, chez Marc Allain, de l'ordre d'un vœu saint-sulpicien. Si le poète avait fait l'économie de la nuit, il n'aurait pas pu engendrer un chant d'une telle puissance de feuillaison. C'est bien parce qu'il a dû affronter sa nuit qu'il a pu, lui répondant dans une dialectique singulière, la transformer en paroles séminales. Dans le poème inaugural du recueil « L'État naissant », publié en 1996, et chantant le souvenir de l'enfance du poète, mis en relation avec le cosmos, le poète révèle « Je vécus dans un livre et c'était l'univers, envoûté par des mots si proches qu'ils tuaient, tel mûrir ou mourir. » Dès son plus jeune âge, Marc Allain porte attention aux mots, et la conscience se fait alors tôt en son esprit que la ressemblance de certains vocables cache un enseignement sémantique fondamental, lui-même conduisant à un savoir ontologique. Mûrir et mourir prend-il pour exemple, comme par un fait exprès, car de leur similitude, le poète comprend qu'il va falloir mourir pour que tout mûrissement soit possible. Marc Allain, à plusieurs reprises au cours de son existence, va connaître cette étreinte de la mort à travers des épreuves nocturnes éprouvantes dont il va chaque fois sortir vainqueur grâce à la composition d'un chant dominant la terreur. À ce titre, la parole du poète, pour atteindre au stade de l'universalité, doit se frotter au réel de l'existence dans sa singularité lui permettant de parler à chacun. Il va donc connaître ce qu'en mystique on nomme la nuit de l'âme et qu'ont chanté avant lui des poètes éminents, Saint Jean de la Croix, Hugo, Novalis, Patrice de la Tour du Pin. Au creux de moi, ô nuit, j'éprouve ton battement, sourd comme si la chair délébile qui m'environne s'inscrivait grâce au noir de ta présence en des demeures d'air, emplissant l'étendue de l'infime à l'infini, pyramidant espace clos dans l'espace sans borne, nuit unissant les extrêmes quand la clarté divise. Nous entendons ici l'écho des vers célèbres de Saint Jean de la Croix en son poème « La nuit obscure » composé en 1578. « Ô nuit qui a conduit, nuit plus aimable que l'aube levée, ô nuit qui as uni, l'aimé, l'ami avec l'aimé, l'aimé en l'ami même transformé. » Vers par lesquels le mystique espagnol affirme la nuit comme moyen privilégié d'accéder à la vision et à l'union à Dieu. La nuit, chez Marc Allain, domaine qu'il fréquente assidûment lors de marches nocturnes lorsqu'il habite Uzès, au milieu des années 60, dispose son esprit à la contemplation, à la méditation du poème. Nuit majeure paraîtra en mai 68, en une période charnière de bouleversements sociaux, et lire ce grand poème à la lumière des mouvements politiques d'alors nous enseigne sur la fécondité d'une parole émergeant au moment même d'événements historiques de rupture, comme l'envers silencieux d'une autre parole, vociférante celle-là, à l'œuvre à travers l'extériorisation de l'être humain par ses actes, se voulant de dimension révolutionnaire. Chez Marc Alain, la nuit est intérieure, au creux de moi, dit-il. Mais elle est vivante puisqu'elle bat comme un cœur. Le poète va la qualifier de multiples manières dans son poème « La nuit se lève », premier poème de nuit majeure. Nuit du symbole, forêt immense aspirant sans cesse les substances. Nuit ardente, feu des ombres, nuit nette et lisse dissimulée au centre de tout. Nuit de l'étreinte. Nous remarquons que dans ce poème, le poète tutoie la nuit qu'il orthographie chaque fois avec une majuscule et que cette adresse, par la multiplication des qualificatifs, constitue certes un chant à une compagne, vue comme une amante, mais aussi tente de la cerner par les mots les plus justes pour en extraire le suc. Le poète porte sur le caractère nocturne de la condition humaine un regard attentif et aimant, au point qu'il en inverse par son langage l'expression commune qui est « la nuit tombe ». Chez Marc Alain, la nuit se lève. Comme un soleil, elle pulse comme le cœur. Et cette inversion la magnifie, car la nuit, en tant que présence associée depuis le fond des âges à la terreur, à l'angoisse, à la mort, mérite d'être assumée et non pas qu'on la fuit. L'une des dimensions de nuit majeure sera justement d'opposer à cette terreur infantile de l'homme moderne, rejetant la nuit comme un enfant persuadé qu'un monstre est caché sous son lit, la présence démiurgique d'une compagne collée à notre peau comme un autre nous-mêmes. Native nuit désormais nulle, niée, innommée, reine errante, Graal, à travers les ronces du clair, lacérant l'esprit avec la vue, en vain je relève les traces de ton pas sur le sol desséché. La nuit majeure, privée de lieu, sans fin, s'efface et se tait. Niée, dit le poète. Puisque l'homme électrique moderne occupe tout l'espace de bruit et de lumière artificielle. Plus d'une seule ville le soir qui ne resplendit pas de l'or factice de ses veilleuses pour adultes. Soulignons ici l'habileté du poète en son écriture. Native nuit désormais nulle, niée, innommée, reine errante, Graal, à travers les ronces du clair. À l'allitération en haine scandant la colère de la négation, cette négation du nocturne renvoyant à l'oblitération de la part d'ombre de l'humain, à sa dimension métaphysique, répond l'allitération en air, appuyant l'idée que la nuit serait comme rayée de la carte des âmes, alors qu'elle contient en ses plis le Graal. Le terme surgit à cet endroit du poème n'est évidemment pas le fait du hasard. Il renvoie d'abord à cette coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ sur la croix, le sang du Dieu fait homme, celui qui allait ressusciter 3 jours après sa mort. La quête du Graal est donc la recherche en soi de notre part éternelle que le sang du Christ symbolise. Le rôle du poète, conscient de l'importance de la nuit dans le parcours initiatique qu'incarne toute vie humaine, sera de relever, je cite, « les traces de son pas sur le sol desséché », faisant ainsi contrepoids au balancier de son époque, lourd d'une inconscience à la portée mortifère. Car contrairement à la vision du poète, sa liberté de voir, qui procède de la haute lucidité quant à ce qui régit les lois de l'être, le moderne, lui, en son choix d'établir comme modèle de pensée le nihilisme métaphysique, ne peut plus faire que l'expérience tragique de la vie. Même si le poète chante que La nuit majeure sans fin s'efface et se tait. C'est pour mieux faire entendre que cette nuit, niée, se dresse en tant qu'ombre à travers les actes humains, par défaut d'être considérée. Nous pouvons lire l'effort démesuré du poète affrontant la nuit moderne en son relativisme et lançant à qui peut l'entendre un chant conjurateur dans l'espoir de rétablir un peu de l'harmonie brisée par une espèce qui ne sait pas ce qu'elle fait. Le troisième thème qui traverse toute l'œuvre de Marc Allain est le thème du feu. Le feu dans sa dimension mythologique. Si la nuit est vécue consciemment comme une épreuve, c'est qu'elle recèle en ses plis une part de lumière. Cette part va se manifester dans l'œuvre de Marc Allain par la présence du feu. De même que pour le thème de la nuit, plusieurs de ses livres en font mention dans leurs titres et dans ses poèmes. Deux ouvrages nommant directement l'élément igné. Brûler le feu, paru en 1959, puis Les alphabets du feu, rassemblant une trilogie, publiée respectivement en 91, 92 et 93. Et l'acception du mot feu ne sera pas proprement la même entre 59 et 93. Cependant, portant notre attention sur le poème La flèche du ciel, dans un autre recueil, intitulé « Délébile », paru en 1962. Lisons deux des quatre parties de ce long poème, la première et la dernière partie.
La flèche du ciel. Déjà l'heure extrême. La flèche ne revient qu'à l'aube vers les nuées nous avions décoché. Nul sang céleste ne souille l'empennée. Notre soif avec elle retombe, lourde tant d'espace et de gestes perdus. Ô temps étroits, mais qui fut vif en un clin d'œil mesuré, rien ne subsiste du défi, or la folle, l'enfantine éternité des aromates dont le cœur jadis s'était pris. C'est l'heure où les sons, c'est l'heure où les voix enchaînées aux murailles étirent leurs voyelles comme des membres morts. Le feu seul peut-être, astre qui se mutile, pourrait punir en nous cet espoir de crête, sans cesse déçu. Ce songe criminel de naître sur des anges, cancer un ciel d'aiguilles de pattes d'oiseaux. Voilà, la journée est morte à la tâche. Nous avons décliné le magma de nos arcs derrière la vitre qui nous sépare du monde. Nous sommes purs de tout destin. L'étreinte du trait de la corde enfante le vide. L'ombre traque la source jusqu'en notre gorge. L'écho dépaisse le cri, tandis que l'or, sans hâte, regagne la veine profonde. Le soir s'accroche aux ronces, polit les cimes. Plus tard, il combattra de l'ombre et du bec, la première veilleuse à la proue des remparts.
Mais l'archer a brisé les chaînes de l'hypnose. Veillée l'obsède, le créneau sol est son repos. Au plus chaud de la nuit, l'aube déjà tourmente celui-là qui ourdit la flèche sous son front. De nouveau la folie à son masque de lampe, les mots tenus en laisse montrent leurs dents d'ivoire. Quittons la forme rauque et les plis du sommeil pour étouffer l'obscur sous un noir plus subtil. Le temps n'attaque pas l'homme en état de veille. Fuyons, mais sans bouger, pour être mieux présents. Dors, piétine l'air, sans poumons, solitaire. À soi-même livré, bourreau de son espace. Fuyons, nous n'aimons rien que ce langage en herbe, que ce langage en feu qui agite ses mâts, sur la vague d'un souffle épris de ses naufrages. Quand la torche s'éteint, l'archer gagne les portes par sa parole précédée. L'aube sort ses rasoirs, tandis que dans la ville, on ajoute aux vieilles cendres de jeunes flammes oiseau reprend son chant, déposé ou couchant sur une feuille et en dévie de l'écheveau. Il faut garder un peu de nuit au fond de nous afin de mériter l'amitié de l'oiseau qui, aigu, se profile en l'aigu de sa note. Et dans l'aube qui prend, d'œil en œil, d'arbre en arbre, telle une épidémie de braises sans recours, drapée en un manteau de cris de coq, s'avance l'homme à la flèche, pointe vivante du premier mot de toute éternité nourrie. Homme, avant l'aurore, au long cours, graine grave, qui dès le gel résume la moisson, pour quel œil seul l'air, ta flèche délébile. L'encre à la fin du livre s'évapore, l'esprit retombe et des chardes se parent. Une agonie sévère et veinée comme chaîne s'impose, vin terrible aux lèvres du matin. Nous mourrons. Nous mourrons du meilleur de nous-mêmes, face à l'aube sans voix, dans nos corps trop humains. L'étoile, la poussière et l'enclume des plaines font silence, ne bougent et gagnent l'éternel. La parole et l'élan dessinent nos frontières, un rectangle d'angoisse au défaut de la terre est le prix d'une vie de frissons et de fruits.
Merci. Ce poème établit une comparaison entre la figure du poète et celle de l'archer. Celui-ci décochant à l'approche du jour une flèche au ciel, et cette flèche métaphysique retombe. Nul sang céleste ne souille l'empennée, et notre soif avec elle retombe, lourde de tant d'espace et de gestes perdus. Le poète interroge donc le ciel, dans une geste sans doute moins guerrière que chasseresse, au fin d'établir un dialogue avec la dimension spirituelle. Ce poème va ensuite dérouler les espérances et les écueils du poète en un dialogue subtil dont les mots seront les interfaces. Il en appelle encore à la nuit. « Ne nous ménage pas, ô nuit, que ton étrave » par la garcette et l'estrapade s'impose au flot comme fer rouge au flanc de la brebis. Et l'archer, prenant la parole dans la nuit hypnotique, la domine par sa veille et son langage en feu, qu'il assimile à un vaisseau. Mais au matin, la torche s'éteint et l'archer gagne les portes par sa parole précédée. C'est cette image qui est à proprement parler tout à fait impressionnante. L'archer poète, être nocturne, s'en retourne dans son domaine intérieur lorsque l'aube sort ses rasoirs. Il n'appartient pas au caractère grotesque ou dérisoire de l'agitation quotidienne des hommes dans les villes, bien qu'il prenne en part lui-même. Mais pour le signifier, il fait appel au mythe d'Orphée dans un retournement de celui-ci extrêmement riche. Contrairement à Orphée, descendu aux enfers pour ramener son épouse Eurydice à la vie, grâce au don de chanteur dont la nature l'a doté, Orphée se montrant cependant incapable de respecter le contrat imposé par le dieu Hadès, lui demandant de ne pas regarder avant d'avoir regagné le monde des vivants, sa bien-aimée, marchant derrière lui, la condamnant par son regard à une éternité de pierre, Alain, lui, sort de l'enfer de sa nuit métaphysique, avec pour seule réponse aux questions qu'il y était venu poser par ses flèches ontologiques, son poème, pour continuer au grand jour un dialogue intérieur avec le céleste. Dans cette lecture que nous faisons, le poète prend la place d'Eurydice, précédé par sa parole, qui devient dès lors Orphée lui-même. Ce retournement du mythe correspond à un retournement ontologique fondamental, puisque par ce mouvement, le poète indique une autre voie à une humanité prisonnière des illusions du monde extérieur. Seul compte le rapport aux mots, aux chants et à la réalité métaphysique auquel il renvoie. Le poète n'a pas produit du feu dans la nuit, il a fait du feu à partir de cette nuit infernale. Et si les propriétés délébiles du chant sont déplorées, je cite, « l'encre à la fin du livre s'évapore », c'est pour mieux faire entendre que cette encre évaporée devient inifugée, le dernier mot du poème, « fruit », renvoyant à la fructification d'une vie pleinement vécue dans son angoisse et ses frissons pour léguer une nourriture savoureuse impérissable. La quatrième dimension que je souhaite évoquer, c'est cette notion du poète qualifié de scribe et de scribe en marche. Marc Alain ne s'identifie pas à Prométhée, mais à la figure du scribe de l'Égypte antique, au scribe Orphée, car il ne s'agit pas de voler quelques feux, mais d'administrer, à l'image de l'écrivain au service de Pharaon, un certain type de domaine. Marc Alain fait du poète celui qui va assumer cette connexion avec les plans que refuse l'humanité d'aujourd'hui. Il fait ainsi en quelque sorte profession de foi, en endossant un rôle déprécié par notre société actuelle, celui du poète, y recueillant quelle gloire, strictement aucune, car il ne s'agit pas de tomber dans ses illusions mortifères. Il assume cette fonction de poète car il sait que, je cite, « matériau irradié, le poème, inoublié, continue de rougeoyer dans les superstructures d'ombre des bibliothèques, encore capable de contaminer. » Cela signifie une chose jamais lue ailleurs, celle du pouvoir du poème. Qu'il soit lu ou non, une fois dégagé du bloc de marbre de son informulation, son énergie et la conscience émanant de lui agissent à des niveaux, ici nommés superstructures, à l'image des constructions s'élevant au-dessus de la terre, permettant une habitation. Cette conviction du poète, qui est aussi un savoir, sera formulée autrement dans un autre poème de Rosa Alchemica. Réparateur de l'être et dépanneur de l'âme, le poète vouait à ses veilles à la résurrection des mots momies, afin que le tonnerre, concentré dans le verbe, épargnât la campagne. Marc Alain porte en lui la conscience que le poète véritable participe à l'émergence miraculeuse de la vie par-delà la mort. Et ce sont les mots qui ont pris la place de Pharaon dans son sarcophage, mot à la vertu soignante. Si Prométhée avait utilisé la férule commune, Marc Alain, lui, assimilant le poète au scribe, use de l'image du roseau, celui dont on sait, grâce à la fontaine, qu'il plie mais ne rompt pas. Brûler le feu de la mémoire, livre frisson, tenu à jour par le roseau du scribe. La fable, la chaîne et le roseau étant passés par là dans l'histoire de la poésie, l'utilisation du mot induit la faculté de résistance et d'éternité liée à cette plante. Le roseau du scribe est l'instrument défiant vents et tempêtes par lequel le poète administre son domaine intérieur, qui est celui de la langue commune. Et grâce au pouvoir conféré par l'univers hiératique de la cosmogonie égyptienne, le poète peut user du roseau de bien des manières. Je cite « Éparpillé en mille éclats d'espace, le sourcier des images se dresse et bouge vers le jour. Brûlure, épiphanie, fulgurance. » Si le roseau devient ici une baguette de sourcier, le scribe, dans ce fragment, se dresse et bouge vers le jour. Chez Marc Alain, le scribe n'est pas assis. Peut-être est-ce la raison pour laquelle nous croisons régulièrement dans son œuvre la figure de Lazare, cet homme revenu d'entre les morts, grâce à cette injonction de Jésus, « Lève-toi et marche ». Je cite, « Je suis Lazare revenu des confins avec toutes ses fins, ayant tenu le néant en ma main, cuit et recuit, avec 19 millions de degrés qui sévissent à l'intérieur du soleil. Laissez-moi seul, je dois maintenant me consacrer à la résurrection de la mort. » Nous voyons ainsi le poète occupé à la résurrection des mots momie, puis en Lazare, affairé à la résurrection de la mort. La formule est saisissante car Lazare, grâce au miracle de Jésus, a pu sortir du tombeau dans lequel son corps reposait. Il a donc vaincu la mort. Marc Alain, se voyant en Lazare, après avoir subi de graves attaques au corps par la maladie, dans une mort sans cesse différée, écrit « Vivait en moi la langue des morts, tandis que je flottais dans mon berceau d'osier, sur le Nil noir, m'efforçant d'éviter la proue tranchante des barques funèbres qui dévidaient le flot vers l'estuaire. » Marc Alain place la notion de résurrection à un autre niveau, celui de la mort elle-même. L'image du berceau d'osier faisant référence à Moïse et à la terre promise. Que peut donc signifier cette chose aussi impossible que la résurrection, aussi impossible, pardon, que la résurrection des corps, à savoir la mort de la mort, au point que le poète estime devoir se concentrer sur sa résurrection. La réponse nous est peut-être donnée dans le dernier volume de la trilogie des Alphabets du Feu, où Marc Alain évoque le poète toujours en scribe, mais en un scribe errant. Le titre de scribe errant fait référence, c'est mon interprétation, à la légende du juif errant, condamné à cause du manque de charité envers Jésus, à vivre éternellement jusqu'au retour du Christ. Le fait que Marc Alain établisse une correspondance entre son expérience de poète associée au scribe errant et le personnage du juif errant nous dit quelque chose de capital quant à sa fonction. Je cite « La voix est venue m'éveiller, fraîche et nue mouillée de rosée, ayant longtemps erré à même le scabieuse, le fenouil, l'absinthe étoilée. Enfin, usant d'un silence plein d'ailes, d'œillets, de lavande et de thym, je fais à l'aimé encore en sommeil, dédicace de ce matin. » La voix, écrite avec une majuscule, symbolisant l'inspiration, comme le juif erre, erre comme le scribe désormais. Cette voix ayant fréquenté les scabieuses, fleurs mauves, représentant la tristesse. Le fenouil étant associé à la clairvoyance et à la jeunesse, c'est-à-dire à la résurrection. L'absinthe étoilée évoquant l'amertume dans la Bible. Cet appel à la flore de la part du poète et à sa symbolique, pour parler de l'inspiration, ce souffle archimillénaire qui vient le réveiller, nous donne une indication sur ce qui anime le scribe. C'est une chose tout à fait différente de ce qui étreint le juif errant. Le scribe, appelant la lavande, mauve encore, et le thym pour porter la purification et le courage au sein du poème. Le poète retourne ainsi la malédiction de ce personnage légendaire. Je cite « Le scribe qui s'en va libre dans son errance est la parole même en marche à travers champ, le langage pollen essaimé par le vent. » Et clairement révéler l'identification du poète avec le poème, ainsi que la nature de cette errance qui relève de la liberté. Il ne s'agit évidemment pas de cette liberté que réclament les temps relativistes, mais la liberté du lien au Dieu Verbe. Si le poète est réveillé par la voix, et que cette voix jusqu'ici errait à travers la nature métaphoriquement humaine et condamnée, à l'image du juif errant, alors nous pouvons en conclure qu'en intégrant cette voix, c'est-à-dire en prenant conscience et en assumant l'inspiration en provenance de domaines sacrés, le poète transforme l'errance en autre chose qu'en une damnation. L'assumant, il la retourne en une liberté joyeuse de se savoir appartenir au poème créateur de vie. Je cite « Poème inachevé gère à travers les ruines de ma forme ébauchée, mesurant pas à pas mon cadastre raturé, mon corps, ville inhabitée où rôdent des fantômes de mots en quête de leur sens, je tente en vain de renouer le fil partout tranché de la ligne ascendante. » Voilà ce que je pouvais évoquer sur le scribe. Je souhaiterais maintenant aborder le thème de Venise qui est très cher à Marc. J'ai donc fait une petite partie qui sur le thème de Venise qui, dans l'œuvre de Marc Alain, on peut considérer que c'est le miroir du Levant. L'errance du scribe s'apparente essentiellement à un voyage. Et Marc Alain fut amené, sa vie durant, à en accomplir de nombreux, et notamment à Venise, une ville qui va l'aimanter. Cette fascination va influencer profondément son œuvre, car Venise est une ville, certes, mais elle est aussi l'histoire, la beauté, le creuset de la rencontre entre l'Orient et l'Occident, une cité symbole. En elle se sont cristallisés les centres d'intérêt chers à Marc Alain dans sa recherche du fil occulte reliant les êtres et les choses selon une perspective métaphysique. Dans un livre intitulé « Prose de l'intérieur du poème », l'un des ensembles intitulé « La lagune, la langue » est consacré à Venise. Cette section est composée de 7 poèmes quasi hiéroglyphiques où Marc Alain établit des correspondances entre des monuments emblématiques de Venise, son histoire et la symbolique cachée à laquelle ces éléments font référence. Le titre même de la section est significatif en ceci qu'il consiste en un anagramme, lagune, langue, suggérant l'équivalence entre Venise, ville construite sur l'eau, et la langue. Non pas une langue, mais la langue, à savoir un absolu représentant la langue intérieure que parle couramment le poète, celle qu'il quête en même temps qu'il la pratique et dont le lieu, Venise, en serait comme la traduction. Mais si Venise est l'incarnation extérieure de cette langue intérieure, il va s'agir pour le poète d'établir une translation de ce lieu dans la langue absolue qui le mobilise. Le premier poème prend pour titre le nom d'une rue piétonne de Venise. Et nous écoutons les lecteurs. Oui.
Cabala. La nuit, nageuse nue prise au filet de l'onde, roule ses vocalises, vocables et syllabes, sous l'arche du pont, Cabala. Un fluide unique baigne les vivants et les morts, flux qui transcende les lisières, entraînant vers les lointains lagunaires la barque de la lune, pilotée par l'œil d'Osiris. Des chats surveillent les déambulations de personnages de tableaux évadés des musées, acrobates de Tintoret, anges de Tiepolo, survolant les roseaux où médite le héron cendré. Coup de bec à travers les barreaux de l'air. Sans fin, l'esprit cherche à saisir la proie qui se dérobe. hirondelle dans l'arc-en-ciel. Quel Moïse au berceau dérive au fil du canal. On dirait que l'espèce des bancs de voix anciennes appelant au secours sur le mur mitoyen de l'ici et de l'indicible, les ombres des passants remuent les armes blanches. Ceux qui s'enfuient en quête des largesses à fond perdu de l'imaginaire avivent leurs reflets dans les remous de ce bateau lavoir où les kabbalistes essorent le verbe. La bandière aux épaules nues, faites silence. On est prié de ne ressusciter qu'avec modération.
Merci. La nuit, ici montrée comme une sirène prisonnière de l'eau, offre son chant mystérieux et secret au coffre démultiplié lorsqu'elle passe sous l'arche du pont Kabbalah. Littéralement, le pont de la Kabbale, autrement dit, le lieu permettant le passage d'un monde exotérique à un autre, celui du savoir des lois du vivant. L'eau va agir comme un liant, celui unissant les vivants et les morts, et peut-être pouvons-nous entendre ici les morts comme ceux ne s'étant pas initiés à la connaissance secrète que recèlent les choses, mais bénéficiant comme par magie de la faculté d'ouverture que l'élément eau qui symbolise l'inconscient. Excusez-moi, je me suis perdu. Mais bénéficiant comme par magie de la faculté d'ouverture de l'élément eau qui symbolise l'inconscient, ici collectif. L'eau peut annuler les frontières, tant physiques que psychiques, et entraîner vers les lointains lagunaires la barque de la lune pilotée par l'œil d'Osiris. Nous avons affaire, en l'occurrence, au reflet de la lune sur les eaux, la lune étant elle aussi l'image du féminin de l'être, représentant l'inconscient, conduite par la dimension mâle de la conscience, apparaissant sous les traits du dieu égyptien Osiris. Ce monde nocturne, tramé de reflets à l'image de nos actes et de nos paroles, miroitant le fond secret de nos êtres, s'enrichit du surgissement onirique de personnages de la grande peinture vénitienne, vivant leur propre vie nocturne sous l'œil des chats qui voient et savent tout ce qui se trame dans l'invisible. L'architecture, l'histoire ancienne et la peinture forment un champ secret, voire sacré, comme une écriture entre les lignes qu'il s'agit de déchiffrer. Quel Moïse au berceau dérive au fil du canal, se demande le poète, signifiant ainsi que la langue cachée mène, là encore, à la terre promise, celle dont héritera le peuple hébreu par l'intermédiaire de Moïse, et qui seul peut délivrer du joug de tous nos esclavages extérieurs parce qu'intérieurs. La dernière image du poème, à travers les lavandières, évoque évidemment le mauve spirituel de la lavande, mais aussi le côté résurrectionnel que la parole peut contenir lorsqu'elle est employée avec l'attitude appropriée. Un autre ensemble, Venise ou le promenoir des licornes, va déployer l'inspiration que la Sérénissime suscite chez Marc Alain. Cette section constitue le prélude du recueil « L'œil imaginaire » publié en 1998 aux abords d'un nouveau millénaire. Cette section de 13 poèmes est marquée par une puissance évocatoire sans commune mesure dans le paysage poétique de l'époque. Je cite. « De vastes nappes de clarté gisaient sous la ville assaillie de roses. » Parcourue de licornes et de lévriers bleus, profondeur concentrée, opprimée dans la pierre, soleil d'Asie prise en otage, cortège halluciné,
hordes métaphysiques drapées d'adagio, d'exorcismes, sous des luminaires de porphyre vibrant d'encens et de clameurs. La saveur byzantine des interdits collait à l'âme. L'eau somnolente des canaux grouillait de felouques, gondoles et tartanes, surchargées de fruits défendus et de captives nues. Nous constatons par ce poème d'ouverture que l'Orient est palpable dans chaque vers. On dirait un poème surréaliste, mais il n'en est rien. Le titre même évoque la ville, sise sur l'eau, comme le lieu créé pour la promenade de créatures imaginaires. La licorne renvoie au monde médiéval, cette époque où Venise prit lentement naissance. Elle évoque la pureté, et sa corne est dotée de pouvoirs magiques, comme celui de purifier les eaux, à savoir, là encore, les eaux troubles de l'inconscient. C'est donc sous cette égide que Marc Alain ouvre une méditation poétique fantasmatique à partir de la figure de Venise. Les nappes qu'il évoque au premier vers sont des nappes phréatiques, donc nourricières, mais elles sont ici de clarté en tant que reflet éclairant la ville du dessous. Les licornes partagent cette forêt métaphorique qu'est Venise avec des lévriers bleus, eux aussi originaires d'Orient. Pour entrer dans le cercle des Vénitiens initiés, sans doute faut-il savoir lire l'ombre sur le cadran solaire des façades illuminées de soleil d'Asie. Chasser l'occulte gravé dans les murs, devenir citoyen de cœur de la Sérénissime en apprenant avec patience à déchiffrer le palimpseste qu'est Venise, miroir magique du Levant. Miroir magique, car elle reflète, restaurée, les architectures somptueuses, les palais détruits des rives d'en face, ceux de Byblos et de Baalbek, que Marc Alain va fréquenter aussi assidûment. Et ce sera ma dernière partie consacrée à l'Orient, traité comme une aventure intérieure par Marc Alain, notamment dans sa trilogie Les Alphabets du Feu. En 1972, Marc Alain appareille pour le Proche-Orient. Ce voyage revêt un caractère prédestiné car, ayant, sans le savoir, rendez-vous avec son âme sœur en la personne de Noah Salamé, et se trouvant lui-même, c'est toute son œuvre, vie et poésie, qui prend une voie d'accomplissement supérieure. Il en naîtra un chef-d'œuvre, Les Alphabets du Feu, constitué de Byblos, de la parole planète et du Scribero. Écoutons Marc Alain. Byblos représente dans mon parcours littéraire un bond en avant décisif, entre éblouissement, fascination et retour aux sources, j'entreprends une destruction concertée de l'histoire à partir de l'évocation d'un lieu enseveli sous tant de passés que l'on ne sait plus par quel siècle le saisir. Cimetière alphabétique, ce coin de terre symbolise à mes yeux la matrice de la perpétuelle fécondation du Verbe par lui-même. Écoutons le début de Byblos. Je fais choix des vaisseaux. Je rentre dans ma source. J'appareille vers les dieux portés par l'ample écriture marine qui, du fin fond de l'horizon, soudain déferle. Les mots en vol serré lacèrent l'air de coups de bec. Dans les jardins suspendus de ma mémoire, il y a des faucons qui rêvent, perchés sur le poing serré des idoles. Une salve d'abeilles, la lumière, buisson ardent. Les vaisseaux ont une triple signification. Les navires, sens concret, matériel. Les mots, bateaux chargés de sens. Et les vaisseaux sanguins, apparentant l'aventure à un voyage temporel. Le sang transmettant les gènes contenus dans l'histoire depuis les ancêtres premiers. Nous embarquons ainsi dans une navigation horizontale et verticale, liant l'homme au monde et au mystère de l'être. La destination du poète et la voie du poème à travers sa tessiture est celle des origines. Je rentre dans ma source. Si la source du poète est le langage, la source du poème, si nous choisissons d'écouter ce premier vers comme étant proféré par ses propres lèvres, est le chant accompli. Aussi assistons-nous à un retour au point originel par la ville de Byblos, cité symbolique où tout commence pour notre écriture, car là furent inventées les lettres à l'origine de notre alphabet. Cette aventure relève bien d'une prédestination pour le scribe Marc Alain. La fonction de l'écriture est de garder mémoire. Elle fut inventée dans le but de se souvenir des faits et gestes du passé avec un objectif architectural. Se construire sur ce qui a été bâti par nos devanciers. Or, Byblos, plus ancienne ville du monde, est peuplée des ruines d'antiques temples et palais qui vont fasciner Marc Alain. Aussi le poète invoque-t-il les jardins suspendus de sa mémoire. La référence aux jardins suspendus de Babylone est évidente. Elle renvoie à l'une des sept merveilles du monde antique, merveille ici clairement associée à la vie intérieure du poète, prenant forme par le visage de sa mémoire. Celle-ci est moins individuelle qu'archétypale, le sang humain gardant la trace ancienne, c'est l'étymologie d'archétype, faisant de nos corps le microcosme d'une totalité historique macrocosmique. Par sa fonction de poète et des dispositions magnétiquement surgies au contact des terres libanaises, Marc Alain accède à la mémoire archimillénaire de l'humanité. Le poète va donc opposer la grande mémoire ensevelie par les événements historiques aux forces cruelles et tragiques de l'histoire dans l'objectif de procéder à une résurrection par les mots, par le chant, de ce qui a été enterré sous la violence du passé. Cet écœurement provoqué par l'histoire est nettement révélé. Derrière ces palais solennels sublimés de dorures, l'histoire, amas d'ordures, immondices en feu qu'un homme seul s'efforcerait d'éteindre, et on le voit courir, agitant les bras, criant, priant, en vain, avant de disparaître biffé par le fumée, polichinelle dans les tiroirs du temps. Le thème principal des alphabets du feu apparaît ici. Il s'agit bien d'une méditation métaphysique sur le temps, autre mystère, dans les raies duquel est pris le genre humain. Le temps, malheureusement orchestré par l'homme grâce à l'histoire, mais une histoire fantasmée, embellie dans ses vers assimilés aux dorures, mot retourné par l'anagramme ordure. L'équivalence est sans appel. La méditation chantée se poursuit. Où coulent les fleuves desséchés, détournés de la géographie vers l'histoire? Qui ranime les langues mortes? Qui ravitaille les cités englouties? L'histoire a détourné les fleuves qui, bien que desséchés, miraculeusement coulent dans l'espace-temps de la mémoire à son profit. Autrement dit, elle s'est appropriée une partie du cadastre, propriété première de la nature. Cette vision du monde établit en creux que l'histoire demeurera le fruit des basses fréquences de l'humanité tant qu'elle ne s'élèvera pas à la hauteur du paysage, ici entendu comme un paysage intérieur dont l'Orient représente l'image initiatique, celle de l'unité retrouvée, celle de la paix des voûtes. Le deuxième volet des alphabets du feu, conçu comme une phase de conquête du verbe par le verbe, Alain le nomme la parole planète. Poème de remerciement au monde, intention plutôt rare, exprimée à un point de lyrisme jouissif rarement atteint dans la poésie actuelle.
Les alphabets évaporés. Les alphabets évaporés, les écritures apatrides, les immémoriales langues mortes errent à travers le désert, dissimulées dans les replis obscurs de la lumière. Les ruines des cités effondrées sont leur royaume. Le corps lisse des phrases reptiliennes glisse sur le silence de tombeaux flottant sur la mort. Des mots momies patientent sous la dune, dans l'espérance dérisoire d'un déluge. Ici repose l'éclair. Écoutez la vie se taire avec au doigt son anneau. Des vols d'oiseaux cristallins en piqué lacèrent l'atmosphère, eux-mêmes transpercés par le regard solaire. Oh, verbe prompt, tel l'épervier qui fond du haut du ciel sur sa proie sans défense.
Merci. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la lumière contient sa part d'obscurité, et ce paradoxe est le seul moyen d'éclairer le langage sur son essence propre, qui est une élaboration, depuis les profondeurs de l'être, née et formulée de manière intelligible depuis les ombres qui nous habitent. C'est en même temps la révélation par le poète d'un savoir précieux. La lumière, qui est la vie et permet la vision, qui dilate la conscience, recèle en son essence une part de nuit, invisible à l'œil non initié. C'est cette part qui éblouit Marc Alain, voyant en elle la conciliation des contraires, et conduit son choix d'exhumer à travers son propre alphabet qui en procède, ces alphabets sacrés respirant sous la terre des hommes et dans la mémoire. Tout un jeu de contradictions résolues s'exprime dans ce poème avec le langage métaphorisé par l'image du serpent, phrase reptilienne, symbole de vie laissant sur la route, mot momie, sa peau ancienne pour se renouveler. Ce langage, qualifié par le poète comme relevant du feu, repose en tant qu'éclair, image de la foudre et de l'intelligence ayant animé cette part de terre. L'oxymore « écouter la vie se taire » renforce la puissance vitale perçue par le poète arpentant ses ruines profondes. Poète filant la métaphore avec au doigt son anneau. Alphabet serpent flamboyant dont l'anneau marque l'alliance, le caractère sacré d'union avec la terre vivante. Dernière dimension à aborder pour ce qui concerne l'Orient, la dimension féminine des terres orientales avec la présence de Noat Salamé, à qui Marc Alain consacre un chant d'amour, le Livre des Amants, paru en 1988, d'une splendeur vertigineuse, c'est mon point de vue. Écoutons. Mes mains se caressaient sans cesse à ta chair nue, modulant par-delà le sang, l'imaginaire, et j'écoutais fuser hors des vocabulaires, rauque sous l'assoiffée vendange de l'étreinte, la voix immensément humide de ta plainte. Toi, l'eau vive qui rit en comptant ses cailloux, moi, l'eau sombre qui rêve en la nappe dessous, nous mêlions désormais au creux d'un même lit nos ondes transformées l'une en l'autre éblouies. La nuit appareillait, gréée en goélette,
La ville torturée de lueurs violettes haletait alentour, en proie à ses fantasmes, cherchant à travers nous l'éclatement du spasme. Tu m'aimais, je t'aimais, j'allais en toi, au fond, nageur, masqué d'éclairs, dans les plis du lagon. Et la flèche vibrait vers des yeux de phosphore qui luisaient, s'éteignaient, puis rayonnaient plus fort avant de s'éclipser au large de la vue. Jamais femme enlacée n'avait été plus nue. L'érotisme emblématique de l'amour absolu inspiré par l'Égérie, Noah Salamé, qui est femme, poète, Liban, Orient, source, langue maternelle, trouve épanouissement dans cette section intitulée « Cérémoniale de la ville femme ». Elle nous donne un aperçu de cette dimension poétique à l'œuvre chez Marc Alain. Nous avons donc abordé 6 dimensions de l'œuvre de Marc Alain, qui en contient bien d'autres. Nous avons tenté de mettre en lumière ce que la parole poétique de Marc Alain a modifié dans le langage. Nous avons cru déceler que son œuvre, le plus discrètement possible, fait passer la conscience humaine à un autre état d'être, à un autre rapport à la vie. Hautement conscient de ce qui se jouait à travers l'époque à laquelle il appartient dans l'histoire du monde, il s'est opposé à ce qui contrevenait dangereusement aux lois naturelles de l'homme et de la vie, chantant pour faire entrer le genre humain dans une fréquence plus élevée à laquelle il est destiné. Tout son chant est tourné vers la vie. Tout son chant produit l'énergie de la vie et de cette joie contenue dans les épreuves constitutives de la condition humaine. Il a, je crois, tout embrassé des dimensions du langage par un champ imagé, tissé des grandes images et de la haute musique, champ compréhensible, bien qu'assumant parfois des côtés plus difficiles, mais que l'extrême beauté conduit comme un guide ouvreur de voie. Nous savons que les civilisations sont mortelles et nous voyons bien que la nôtre est clairement menacée d'extinction. Marc Alain, s'attachant à ressusciter la civilisation disparue de Byblos, a finalement transformé le poème en force civilisatrice. Il a fait du poème une civilisation à part entière et intemporelle. Ce champ de vie mérite toute notre reconnaissance. Merci.
Merci, mon cher Noël, pour ces mots inoubliables qui me touchent. Que nous avons partagé dans un esprit d'amour de la beauté qui nous prolonge et qui nous parle à l'oreille sans cesse. Merci encore.
Oui, on est dans les temps. Merci énormément. De ce magnifique. En fait, c'est une très belle introduction à la lecture de Marc Alain. Il ne reste plus qu'à lire ces 3 tomes, qui effectivement sont magnifiques. Mais peut-être que vous serez intéressé par le petit livre que vient de commettre notre présentateur aujourd'hui, qui s'appelle donc tout simplement Le Scribe en marche. Et vous avez donc compris qu'il s'agit donc de Marc Alain et d'une introduction à son œuvre. Je crois que c'est une excellente introduction, un peu le résumé de ce qu'il vient de nous dire. Si vous avez des questions, on a encore un tout petit peu de temps. Oui.
J'en aurais peut-être une, oui, parce que j'ai écouté, j'ai beaucoup apprécié évidemment tout l'aspect, tout l'aspect nuit, qui est en fait un jour, parce qu'en effet, on prend conscience de soi, on s'éveille à soi-même, quand justement on n'est plus dans le tumulte des gens autour. Là, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais par contre, quand j'entends que Marc Alain se sépare de la ville en disant ah, la ville m'agace, là je me dis, je pense évidemment à Cocteau, c'est pas en fou, je me dis, mais non, Cocteau va nous dire où que je sois, quand je suis justement dans cet éveil intérieur profond, le monde rayonne justement. Donc je peux aller dans la ville, c'est une phrase citée par Marc Aurèle qui l'avait reprise à Virgile, qu'il est bon quand je suis dans la foule de me rappeler de moi. C'est extrêmement puissant. Et dans ce sens-là, la foule n'est plus un ennemi à fuir, mais c'est peut-être un élément de rappel pour revenir, comme dans la nuit, à moi-même. C'est le seul élément qui m'a paru dichotomique et qui m'appelle à une interrogation.
Je ne suis pas un ennemi de la ville, loin de là. J'écris des ouvrages, je crois, exemplaires, non seulement sur Venise, mais sur Paris. J'ai fait un grand livre sur Paris. La ville en général me fascine. C'est un des aspects de cette interprétation que je partage en même temps, dont je me distingue. Et je crois que nous ne sommes pas opposés, contrairement aux apparences. Il faudrait pouvoir discuter de chaque aspect.
Oui, quoi ? Oui, moi c'est formidable, effectivement, tout ça, j'ai écrit pas mal de notes. Sur la flèche, bon, je ne suis pas philosophe, mais je me demande s'il n'y a pas une influence de Paul Valéry, de la flèche de Zénon.
On peut, mais vous savez, Valéry lui-même était très proche de beaucoup de poètes. J'ai été étonné de voir que même le cimetière marin a des sources extérieures et littérales.
Ah bah quand même, oui.
Mais nettement, pourrait préciser les choses si on avait le temps de le faire.
Oui.
Oui. Vous n'avez pas parlé des aphorismes. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à lire Le Silencière, par exemple. Et j'ai trouvé un autre aspect de l'écriture de Marc Alain, avec l'humour et des choses qui...
L'humour, oui.
Je vous remercie. Moi, c'est important. Mais c'était difficile, sans doute, de parler de tous les aspects. Vous savez, je crois être un des rares à pouvoir parler de mes 70 années d'écriture. Autrefois, on disparaissait avant de pouvoir atteindre des périodes si longues. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui ont tous leur valeur et tous leur poids. Et je crois que vous n'avez pas tort.
On peut souligner aussi, et ça a été un tout petit peu évoqué, l'importance de la peinture. Et je me souviens que dans Aujourd'hui Poème, Marc Alain avait une chronique sur les peintres, qui serait intéressant de relever.
Les peintres dans leur dimension poétique.
Oui, voilà.
Et il y a un livre qui en est sorti.
Le titre du livre.
Approche de l'art moderne.
Approche de l'art moderne.
Approche de l'art moderne.
Aux éditions Partillas.
Des portraits d'artistes qui ont également écrit des poèmes, des aphorismes précisément. Même Picasso a écrit des aphorismes. Alors, en tout cas, il les a parlé. Et quelques-uns les ont voté, heureusement.
Sur l'art.
C'est très difficile de faire coïncider toutes les choses.
Oui. Bien, donc il nous reste, Ivrain, donc nous avons terminé. Je remercie énormément donc, de cette magnifique introduction, de la présence de Marc et de Noat qui nous réjouit. Il y a donc quelques livres là, si vous voulez.
Est-ce qu'on peut écouter la chanson?
Ah, peut-être, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Vous avez la chanson là, peut-être?
Eh bien, essayons. Qui a fait des chansons à partir de mes poèmes, dont un spectacle sur les tarots, qui est un jeu de cartes initiatif.
Marc,
tu m'as beaucoup intéressé, Marc.
Marc, est-ce que tu manges quelque chose que je dirais?
Vous vous rappelez des circonstances, peut-être?
Oui, justement.
Oui.
Oui, c'est un poème. En fait, j'ai mis en chanson un poème de Marc Alain qui est extrait du livre des amants, justement. Et c'est les prémices, justement, de la rencontre. De la rencontre avec un grand air. Ça s'appelle « Tout en femme ». Voilà, il faut qu'ils se reconnaissent. Quand je pense au passé, à tous ces pas sans toi. Sure.
donné de ce disque. Ce disque est paru, il a été publié.
Non, il est pas, il apparaître.
Ah, il apparaît, très bien. Alors, quelle édition il paraît...
Alors, ce qui apparaît dans notre œuvre, c'est l'extrait de Rêve secret des tarots. Donc, il y a les 22 arcanes des tarots, ça traverse le double CD. Et puis celui-là viendra en fait.
D'accord. Bah, merci.
Qu'on arrête.
D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, eh bien, on